Séquence Midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci de commencer cette semaine en notre compagnie. Séquence Midi, c'est en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h avec vos découvertes musicales, votre agenda et puis vos invités bien sûr. Aujourd'hui, on va parler d'un projet intergénérationnel, ce sera en seconde partie d'émission, mais tout de suite, on va parler entreprise, export et médical et tout cela en compagnie de Maud de la Belle Issue. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente de Somno Engineering et Quentin Hérault, bonjour.
Bonjour.
Et vous, vous êtes en charge de la recherche clinique. Alors, vous êtes là pour nous parler de votre entreprise, de son développement, puisqu'il est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine. Peut-être d'abord, je me tourne vers vous, Maud de la Belle Issue, puisque vous êtes présidente de l'entreprise. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de Somno Engineering ?
Alors, Somno Engineering a développé le premier dispositif médical innovant qui permet de prendre en charge le sommeil des patients de réanimation. C'est un sommeil très spécifique. Nous sommes une spin-off du CHU de Poitiers et nous avons développé en collaboration avec le CHU de l'université ce dispositif.
Donc une entreprise issue de la recherche. Et donc, Quentin Hérault, pourquoi se pencher sur cette question du sommeil des personnes en réanimation ?
Alors pour de très bonnes raisons, puisque les patients en réanimation ont un sommeil qui est extrêmement altéré par les soins, l'environnement lumineux, la pathologie, les douleurs et aussi les bruits d'alarme de scope, de ventilateur, des pousses seringues électriques qui préviennent le personnel soignant des différents besoins du patient à plusieurs moments. C'est un service qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, donc un patient qui est hospitalisé en réanimation peut potentiellement être exposé à des alarmes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit tout au long de son hospitalisation. Du coup, ce sommeil, lorsqu'il est observé, on se rend compte qu'il est extrêmement chaotique, qu'il est découpé, réparti sur le jour et sur la nuit et ne permet pas aux patients de récupérer correctement. Donc le sommeil des patients en réanimation, c'est véritablement un sujet d'intérêt de santé publique puisque c'est ce qui va permettre de diminuer l'impact de la privation de sommeil chez ces patients-là qui... plusieurs études internationales l'ont montré, va augmenter le temps de séjour en réanimation qui coûte extrêmement cher et va aussi avoir un mauvais pronostic pour les patients avec des conséquences qui peuvent être potentiellement létales.
C'est vrai qu'on sait l'importance du sommeil, mais on n'y pense pas forcément pour ces personnes en réanimation. Il y a des risques concrets pour leur santé si leur sommeil n'est pas réparateur.
Oui, oui, tout à fait. Comme je vous disais, il y a des études cliniques internationales qui ont démontré le surcoût et le pronostic, le très mauvais pronostic de certains patients du fait de la privation du sommeil. Pour bien vous représenter la chose, il faut s'imaginer être privé soi-même de sommeil plusieurs nuits d'affilée par des perturbations extérieures. Très concrètement, en 3 à 4 jours, on se met à avoir des hallucinations et du délire. Et 4 à 5 jours, on a un risque vital qui est engagé en étant sain et sans pathologie.
Alors, l'entreprise a été créée, c'était il y a 3 ans, tout pile, en mars 2021. Racontez-nous les différentes étapes qu'il a fallu franchir pendant ces 3 années.
Elles sont nombreuses. Donc, on a créé en 2021, après avoir bien étudié les différentes possibilités de fabriquer ce dispositif. Puisque aujourd'hui, il n'y a pas d'outils qui permettent réellement de monitorer simplement et de manière confortable pour les patients et les soignants le sommeil en réanimation. Il fallait donc miniaturiser le dispositif, réduire le nombre d'électrodes. On est passé de 30 électrodes à 3 électrodes. Et puis s'assurer que l'algorithme que mon associé, le professeur Drouot, avait mis au point allait être efficace dans notre dispositif sur le sommeil très spécifique de ces patients-là. On a créé, on a développé le dispositif, on l'a testé en étude d'usage grâce à un contrat de collaboration avec l'université et le CHU. On a ensuite amélioré l'algorithme, amélioré le dispositif avec les retours des soignants et l'aide notamment de Quentin sur l'utilisation au quotidien de cet outil. Et puis ensuite, on a fait les démarches pour qu'il soit certifié en laboratoire et être utilisable chez l'humain pour une étude clinique qui a démarré en août dernier et pour laquelle il y a déjà une 30aine de patients qui ont été inclus. Et la deuxième phase va commencer bientôt.
Alors, comment ça se passe concrètement pour les patients ? Qu'est-ce qu'apporte ce dispositif ?
Alors, ce dispositif, qui est extrêmement miniaturisé, permet d'enregistrer leur activité encéphalique en temps réel, de façon à la retranscrire en un état de veille ou un état de sommeil auprès du personnel paramédical qu'il pourra consulter sur un écran à l'extérieur du box de réanimation. Donc, l'installation sur le patient est sans gêne, puisque le boîtier est tout petit. Il peut être mis soit sur le front du patient en fonction de ce qu'il y a dans la sphère autour de son encéphale, c'est-à-dire les intubations, les pousses seringues, les sondes qui permettent de nourrir le patient, soit à distance lorsque le patient est beaucoup beaucoup plus éveillé lorsqu'il a besoin de moins d'assistance et que donc du coup on peut mettre des câbles un petit peu plus longs qui gênent pas le travail du personnel paramédical. Une fois qu'il est installé, ce dispositif tourne en continu et informe le personnel paramédical, comme je disais, de l'état de veille et du sommeil, et donc va permettre aux soignants d'adapter un petit peu leurs soins de façon à éviter d'intervenir de façon aléatoire dans des phases de sommeil du patient et donc de prendre le risque de le réveiller. L'idée étant de prolonger le plus possible les rares et fragmentés épisodes de sommeil du patient.
Est-ce que c'est pas compliqué pour vous qui êtes soignant, sachant que vous avez un planning aussi, c'est vrai que les soignants ils rentrent dans la chambre à des moments où, voilà, en fonction de leur planning aussi, là il faut s'adapter aussi aux patients.
Oui, oui, tout à fait. De toute façon, il n'y a pas un soignant pour un patient. Il y a plusieurs patients à chaque fois. Ce qui fait que finalement, le choix va plus se porter sur la question de savoir si à tel moment je vais aller voir plutôt mon patient numéro 1, plutôt mon patient numéro 2, plutôt mon patient numéro 3, puisque les épisodes de sommeil en réanimation durent extrêmement rarement plus de 40 minutes. Voilà, c'est, quand je vous disais que c'est fragmenté, c'est très
c'est
fragmenté. Donc en fait, finalement, lorsqu'on va avoir trois patients et qu'il y en a un qui va pas dormir pendant que les autres dorment, il suffit d'aller le voir à ce moment-là, lui, pour faire les soins. Et le temps de sortir, il y a une très forte probabilité pour que l'un des deux autres soit éveillé et qu'à ce moment-là, on puisse y aller. Donc finalement, c'est plus une question d'adaptation du choix de quel patient à quel moment qu'une question de réorganisation complète des soins qu'on va pratiquer.
Donc vous vous êtes associé à Xavier Drouot, effectivement, le chercheur, professeur de neurologie, pour créer cette entreprise. Entreprise créée juste après ou pendant la crise sanitaire, est-ce que c'est anodin ou est-ce qu'au contraire, justement, il y a eu une prise de conscience à ce moment-là?
Oh, il y avait la prise de conscience du manque de lits en réanimation. Et un patient qui dort mal reste plus longtemps et ça mobilise un lit, alors qu'un patient qui dort bien va pouvoir ressortir plus rapidement de la réanimation, ça libère des lits et puis ça permet d'accueillir un nouveau patient, donc de diminuer la mortalité de facto. Mais le projet était déjà réfléchi depuis 2017. On a été incubé très tôt par la Technopole Grand Poitiers, Néologie, pour bien réfléchir à ce projet, voir si c'était un projet qui allait être viable. Ça reste une réalité économique, une entreprise, il faut s'assurer qu'on pourra en faire quelque chose à terme.
Quels sont les premiers retours que vous avez là des premiers mois de mise en œuvre ?
Très bon.
Très bon, c'est vrai, vous voyez déjà les, oui, les résultats ?
Alors, sur la première phase de l'étude, il n'y a pas d'élément interventionnel, c'est-à-dire qu'on ne va pas modifier la pratique des soins et la pratique des soignants sur la première phase. On va juste étudier la manière dont s'opère ce sommeil de réanimation, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que ne serait-ce que l'étude du sommeil est extrêmement coûteuse, nécessite beaucoup de temps de travail et des médecins spécialisés pour les relectures. Là, pour le coup, avec ce dispositif, on peut le faire de façon beaucoup plus rapide et donc mieux observer plus facilement le sommeil des patients. Donc ça, c'est la première chose qu'on a, c'est-à-dire un groupe de 30 patients qui ont été recrutés dans l'étude et sur lesquels on a une analyse de 80 nuits passées par ces patients-là. Pour constituer une banque de données de cet ordre-là, il faut plusieurs années de travail. Là, on a pu le faire en quelques mois seulement. Donc déjà, ça c'est une première avancée qui est très très bonne, que ce soit pour la recherche, pour l'étude clinique des patients. Ensuite, les données qu'on a nous ont informé de plusieurs choses. Déjà, nous ont confirmé les durées d'épisodes de sommeil des patients. Quand je vous disais les 40 minutes, elles sont issues concrètement des analyses de ces signaux-là. Ensuite, ils nous ont informé sur la manière dont se déroulait l'éveil des patients et on sait par exemple qu'il y a une partie des éveils des patients qui sont dus à des alarmes qui vont se prédéclencher avant le passage du personnel paramédical, mais aussi une partie des éveils qui ne sont pas en lien avec le déclenchement d'alarme, qui sont en lien avec le passage des paramédicaux. Donc c'est là où on a vraiment le cœur d'action, où on va pouvoir réorganiser un peu les soins, comme je vous disais tout à l'heure, pour éviter ces passages-là. Et ensuite, quand on observe le sommeil des patients avant et après le passage du personnel paramédical, ceux qui ont été déclenchés non pas par des alarmes, mais bien par le passage du personnel soignant, on observe vraiment qu'il y a une rupture dans le sommeil qui va durer de 20 à 30 minutes. Donc à chaque passage de paramédical, c'est 20 à 30 minutes de sommeil potentiellement perdu derrière.
Alors où on en est maintenant? Quelles sont les prochaines étapes, obstacles peut-être à franchir? La question financière, j'imagine?
Alors la question financière, ça a été un sujet, c'en est toujours un. On a réalisé notre levée de fonds auprès de 3 fonds d'investissement et des business angels en octobre dernier. Donc on est assez serein pour les mois à venir. On a un dispositif qui est pré-industrialisé, donc prêt à être commercialisé dès qu'on aura terminé l'étude clinique, l'on aura passé toutes les démarches réglementaires restantes, le fameux marquage dispositif médical européen, et également américain, puisqu'on va déposer aussi auprès de la FDA en parallèle pour une commercialisation du dispositif médical à horizon 2025.
Donc dans un an, a priori, c'est sur le marché.
Oui.
Et vous êtes soutenu aussi par les collectivités, donc notamment la région, mais voilà.
On est très, très soutenu. On a beaucoup de chance en France d'avoir un tel écosystème. Donc, bien sûr, la région Nouvelle-Aquitaine, notre incubateur Néologie, l'agence de développement et d'innovation, parce qu'on essaye aussi de travailler sur les aspects durables de notre dispositif en réduisant les consommables. La BPI, bien sûr, la BPI, c'est Lot of Love, la BPI, la Team France Export, puisqu'on va aussi directement à l'export.
Alors, terminons peut-être là-dessus, effectivement, ce ne sera pas réservé à la France, vous pensez déjà à l'international?
Bien sûr, alors, le marquage pour la France, réglementaire, c'est le même marquage que pour l'Europe. Et quant aux États-Unis, on a déjà de nombreuses collaborations aux États-Unis, donc il est évident qu'on va aller prioritairement aux États-Unis, puis on est lauréat net. Donc c'est le concours de l'ambassade de France. C'est parti.
Et ben, un grand merci à tous les deux d'être venus nous parler de ce projet. Donc Maud de la Bellissu, présidente de Somno Engineering, et donc Quentin Hérault, qui est infirmier de recherche clinique pour ce projet. Merci à tous les deux.
Merci à vous.
On continue en musique avec du dub, et c'est le groupe, enfin le guitariste Pila pour ce projet Countryside. Also, after 30 years, I found my countryside. The land of my ancestors, where I'm happy to wake up. With the song of honey birds who sing in front of my window. Drinking a cup of the outside with the morning sun.
De transport.
Pulsar, c'est bon.
Moi, je dormirai sur le sofa.
Point d'exclamation.
Et on accueille tout de suite Claudine Oriot, qui est coprésidente de l'association CIF-SP Solidaire entre les âges. Bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Merci d'être avec nous suite à un fonds que vous avez obtenu de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes pour former des jeunes, leur permettre de devenir mobiles et surtout de s'impliquer dans les métiers du médico-social. Racontez-nous comment est né le projet.
Alors voilà, notre association propose du transport solidaire dans toute la Vienne et sud de Sèvres, en partenariat avec les communes, une centaine de communes. Et le transport solidaire fonctionne bien, il y a beaucoup de bénévoles. Et on avait des jeunes qui n'avaient pas le permis et qui nous disaient bah, « moi je ne peux pas participer au transport solidaire, je n'ai pas le permis ». Alors on n'a pas le permis, les jeunes n'ont pas le permis pour plusieurs raisons. Ça peut être financier, mais ça peut être aussi parce que le code est un peu difficile.
C'est de plus en plus difficile.
Voilà. Et puis c'est un langage assez inaccessible. Et puis parfois totalement inaccessible quand on maîtrise pas bien le français. Mais ce sont des jeunes qui pourraient très bien conduire. Mais voilà, il y a des choses qui les empêchent. Et on a pensé à ça. Et puis un jeune un jour qui m'a dit, mais moi, si j'avais une voiturette sans permis, je pourrais aller rendre visite aux gens. Je pourrais les emmener au supermarché ou à des rendez-vous, tout ça. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai. Il y a d'autres solutions. La voiturette sans permis, c'est autre chose, mais ça permet d'être bénévole quand même, quelle que soit sa propre autonomie, en fait. Hein.
Donc, la voiturette solidaire est née.
Oui.
Quelles sont, pareil que tout à l'heure, un petit peu les étapes qu'il faut franchir pour arriver à ce projet de voiturette?
Alors, donc il y a le transport solidaire qui concerne des centaines de personnes. On parle de plus de 1800 personnes qui sont
concernées. Des personnes âgées, des personnes en situation de handicap.
Absolument, voilà. Ou des personnes qui sont momentanément immobilisées et qui momentanément ne peuvent pas aller toutes seules chez le médecin ou à la pharmacie ou des choses comme ça. On n'empiète jamais sur les professionnels, mais il arrive que dans des coins reculés de la Vienne, il n'y a pas de VSL ou il n'y a pas de taxi pour les personnes qui pourraient se le permettre. Et donc, on a ça. La voiturette, c'est plutôt pour la ville, parce qu'elle a une autonomie assez limitée. Et en ville, on a aussi beaucoup de demandes. Hein. Et donc, voilà, c'est venu parce que un de nos bénévoles, Ruben, m'a dit, lui, il a un fauteuil électrique, il est très mobile, il se balade partout dans la ville de Poitiers. Il peut marcher avec des béquilles. Et il m'a dit, voilà, moi, je pourrais. Et on a commencé ce projet. Et le fonds de la Caisse d'épargne, de dotation de la Caisse d'épargne, a aimé notre projet, à savoir, donc, pour devenir chauffeur d'une voiturette, de la voiturette, parce que pour l'instant, on en a
qu'une.
Mais il y en aura plusieurs en
D'accord,
projet.
D'accord, ok.
Hein. On a lancé, dans les Deux-Sèvres, l'auto-école solidaire. Et on a une monitrice d'auto-école qui est salariée chez nous et qui donne des cours. Et on s'est dit, oui, elle pourrait apprendre aux jeunes parce que la voiturette sans permis, c'est un petit peu... nous, on ne voudrait pas lancer les gens sur la route.
On ne voudrait pas les laisser comme ça.
Donc, on voudrait qu'ils prennent quelques leçons de conduite, qu'ils connaissent le code. Donc, on va imposer le code pour être sûr quand même que tout est connu. Et ils vont pouvoir prendre des leçons avec notre auto-école.
Ça pourra faire peut-être un premier pas pour qu'ils aient ensuite le permis ?
Absolument, absolument. Parce que si le frein, c'est la finance, plus tard, quand ils vont avoir un travail, ils pourront passer à l'étape suivante, quoi. Hein, voilà.
Donc, une voiturette que vous allez pouvoir acheter, ou ça en est où, là ? Elle est déjà...
Ça y est,
oui, okay, elle est arrivée.
Oui. On a reçu le prix officiellement la semaine dernière. Et en fait, le fonds de dotation nous avait déjà envoyé l'argent. Donc, au mois de décembre, on a acheté une voiturette qui est arrivée il y a 15 jours déjà. Et qui commence à avoir tous ces petits stickers dessus. qui est très jolie. Hein. C'est un Playmobil, c'est adorable.
Bon, on devrait la croiser dans les rues de Poitiers, alors.
Oui.
Et donc, elle va bientôt être opérationnelle. À qui ça va s'adresser concrètement à Poitiers ?
Alors, à des jeunes qui sont déjà bénévoles chez nous et qui ont des actions bénévoles d'aller rendre visite à une personne âgée ou bien d'aller d'emmener une personne âgée à un rendez-vous. ça peut être des rendez-vous médicaux, tous les rendez-vous où il n'y a pas de VSL de prévu, pour des personnes qui ne peuvent pas se permettre de payer le taxi et qui ne peuvent pas marcher jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche parce que c'est trop loin. Hein. Et donc, on peut les accompagner. Parfois, c'est pour aller rendre visite à un proche dans un EHPAD ou à l'hôpital. Ou... Enfin, voilà, hein, c'est...
Alors, ça met vraiment en valeur ce côté intergénérationnel de votre association CIFSP. Voilà, ça entre totalement dans le cadre de vos actions. Hein.
Tout à fait, tout à fait. On veut vraiment qu'il y ait des liens à la fois intergénérationnels, interculturels, de mixité à tout point de vue. Et donc, je trouve ça, c'est pour ça que ça m'a plu l'idée de lancer ce projet.
Et alors, est-ce que c'est encore possible de rejoindre le projet s'il y a des jeunes motivés ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, notre association a des locaux à Poitiers, aux Couronneries, à Beaulieu, à Belle-Joanne. Et dans ces locaux, on peut y aller comme bénévole, se faire connaître, rencontrer les animatrices et qui vont évaluer avec le jeune quel parcours on peut lui proposer dans le bénévolat pour que ça lui apporte quelque chose. On veut que nos bénévoles tirent quelque chose de leur bénévolat. Ils donnent quelque chose, mais ils doivent recevoir quelque chose. Et ce qu'ils vont recevoir, c'est, s'ils sont jeunes, en général, c'est une aide pour s'orienter dans la vie, dans leur formation. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire ? Parfois, ils ne savent pas encore, mais les aider à trouver ce qu'ils aimeraient faire. Et donc, c'est ça qu'on peut leur apporter.
Et justement, tous ces métiers de l'aide, du médico-social, de l'accueil, ça, on en a besoin. Hein.
Oui.
Donc, ça
oui,
peut créer
oui,
des
oui.
vocations aussi.
Tout à fait. On veut qu'ils se rendent compte si ça leur plaît. Ce n'est pas la peine de se lancer dans une formation pour être aide à domicile si on n'aime pas ça. Et c'est vraiment très, très important que cette partie de bénévolat soit un pré-engagement, pas engagement, une présentation de ce qui va se passer, des formations. On forme beaucoup à toutes les maladies du grand âge, à tous les problèmes de l'âge, le risque de chute, toutes les maladies qu'on rencontre.
Donc en interne au sein de l'association ?
Oui, tout à fait. Nos bénévoles sont formés. Il y a des formations en permanence. Des formations même parfois plus larges parce que nous accueillons beaucoup de bénévoles jeunes ou moins jeunes qui viennent de pays lointains et pour qui, par exemple, l'égalité femmes-hommes n'est pas évidente. Ou bien, qu'est-ce que c'est que la laïcité ? Qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble pour nous ? Hein ? Donc, comment on l'entend nous ? Mais après tout, et on partage avec eux. Donc, cet interculturel aussi est très, très important. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre parce que eux ne traitent pas leurs personnes âgées de la même façon que nous. Mais nous, on apporte autre chose. Enfin voilà, on s'apporte mutuellement.
Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde, quel que soit l'âge, quelle que soit l'origine, pas besoin de diplôme.
Non, aucun diplôme, aucun prérequis. Venez tel que vous êtes. Voilà.
Et donc comment va se développer le projet ? Donc une première voiturette, l'objectif c'est quoi ?
L'objectif c'est qu'elle fonctionne le plus souvent possible, c'est qu'elle permette à certains jeunes de sortir de leur coquille qui le souhaitent, hein, bien sûr, et de leur donner cette possibilité à des jeunes qui eux-mêmes n'auraient pas osé se mettre sur la route. Donc voilà.
Et donc dans l'idéal, ce serait d'acheter d'autres voiturettes à l'avenir ?
Bien sûr, oui, ce serait d'avoir un petit parc de voiturettes, oui. Ouais, ouais.
Eh bien, un grand merci Claudine Oriot, donc co-présidente de l'association CIFSP Solidaire entre les âges, d'être venue nous parler de ce beau projet qui a été soutenu, qui a remporté ce fonds de dotation de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, donc pour former ces jeunes, pour qu'ils accompagnent les plus fragiles dans leur vie quotidienne. Merci beaucoup.
Demain, merci à vous.
Ne ratez pas, bien sûr, séquence midi, toujours à 12h30. Et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Avec une exposition qui commence aujourd'hui et jusqu'au 9 avril, c'est au Dortoir des Moines à Saint-Benoît. Partout en France et en Europe, les Journées européennes des métiers d'art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d'une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d'art. Le centre-bourg de Saint-Benoît est au cœur de la démonstration de savoir-faire de ses artisans artistes. Et c'est à l'Office de tourisme de Saint-Benoît pour avoir plus de renseignements. Vous les connaissez maintenant, ce sont les lundis détente. C'est à 14h à la Maison des Trois Quartiers, la M3Q à Poitiers. Et ce lundi, c'est atelier écrit. confiture afin de préparer le vernissage d'une exposition. L'entrée est libre. Unipop, les sorcières de l'Orient, au cinéma Le Majestic à 18h30 à Montmorillon. Conférence Jeux Olympiques, le monde selon le CIO. Et puis c'est suivi du film Les sorcières de l'Orient à 20h30. Et puis le République Comedy Club, c'est à 20h à l'espace République Corner, soirée de stand-up. Pendant plus d'une heure, des blagues de professionnels humoristes qui viendront vous faire rire. Et donc, il faut réserver votre place. C'est à 20h ce soir. Et puis au TAP, 20h30, il y a plus de lumière. C'est donc sur le ring de boxe qu'elle choisit pour scène, accompagnée de danseurs. Émilie Le Borgne illustre le propos d'Umberto Eco. Pour mieux le dépasser, elle élabore un subtil montage où s'entrecroisent extraits de films et de romans, fragments sonores et citations. Les tarifs vont de 3,50€ à 16€ et les informations sont www.le-meta.fr. Et puis soirée salsa, bachata, kizomba comme tous les lundis à 21h au République Corner avec DJ Alex de Poitiers Salsa, avec un petit cours pour ceux qui ne connaissent pas tout très bien. C'est à partir de 20h et ensuite la soirée est libre. Sur Pulsar, retrouvez à 18h And the Tap Drips, à 19h c'est votre émission de bande dessinée X-Bull, ce soir à 20h c'est Punks et de 21h à 23h Scrognonieux. C'était Grégory à la réalisation technique. On se quitte avec What's My Name, le titre Twende Pamoja. Voilà, c'est de la musique donc créée par Théo Sekaldi. Bonne écoute, à demain.
Nobody bada 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 bada. A day on summer, 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 summer. Nobody bada 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 me. Mwati bede talo chubede talo fede le talo fe wet. Wankule le ya maja were sakulo ba talo fe be. Skentele skotolo gele te we iskopolo. Adala mafi bon wede gele kurolo ringi a edolo. I'ma kill it them, I'ma do it diligent. I got pretty bands, I got money, I got friends. Summer, 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 summer. Nobody bother, 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 bother me.
Hunger's on good swagger.
Summer, 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 summer. Nobody bother, 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 bother me.
Kaopota yo, kasimama de de kaopota yo, kasimama de de kaopota.
regardez.